Chapitre 12. Joas, roi de Juda. L'état dont nous venons de parler ne dura pas. Le règne de Joas est un triste exemple, donné par la parole, d'un heureux commencement dans la puissance de l'Esprit de Dieu et d'une fin où s'évanouit tout ce que le début avait fait espérer. Fait exceptionnel, les chroniques nous exposent en détail l'infidélité finale de Joas, tandis que les rois, sans doute pour établir le contraste entre le culte du vrai Dieu, rétabli en Juda, et la religion idolâtre d'Israël, ne nous parle que du commencement heureux et béni de ce règne. Commençons donc par celui-ci, mais examinons d'abord ce qui, dans le caractère de Joas, put l'amener à renier complètement les principes qui caractérisaient le début de sa carrière. Les premiers mots de notre récit nous renseignent à cet égard. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel tous les jours que Jéhoïada le sacrificateur l'instruisit. Verset 2. Joas, élevé dès ses plus tendres années dans la loi de l'Éternel, gardé avec une pieuse sollicitude de toute tentation extérieure, par les soins de Jéhoïada et de Jéhoshéba, doué d'un caractère facile, brillant plus par la soumission que par l'énergie, subissant les bonnes influences tant qu'elles prévalaient, mais en danger, par manque de vertu, de subir les influences mauvaises, Joas s'était habitué depuis l'enfance à jouir de relations avec Dieu par un intermédiaire, sans éprouver le besoin d'une communion directe avec l'Éternel. Non que l'esprit d'initiative lui manquât, le courant de piété dans lequel il était engagé le rendait capable, à l'occasion, de reprendre le souverain sacrificateur lui-même. Verset 7. Mais la direction immédiate de l'Esprit de Dieu lui faisait défaut. Les enfants des chrétiens offrent souvent ce spectacle. La foi de leurs parents guide leurs premiers pas, chose légitime et approuvée de Dieu. Ils montrent plus tard une foi réelle, mais non dépouillée de ses premières habitudes et regardant à l'homme plutôt qu'à Dieu lui-même. Leur conscience n'a pas été profondément exercée quant à l'état de péché de l'homme et à son éloignement naturel de Dieu. Ils croient ce qu'ils ont toujours cru, et cependant ne peut douter qu'il n'ait la vie. Leur conduite ne laisse rien à désirer, et ils ont un véritable intérêt pour les choses de Dieu. La parole ne leur est pas inconnue, et l'on voit un Joas rappeler même au souverain sacrificateur le tribut de Moïse, serviteur de l'Éternel, imposé à la congrégation d'Israël pour l'attente du témoignage. Deux Chroniques 24, verset 6. Mais l'heure de leur émancipation spirituelle n'a pas encore sonné. Depuis longtemps, cela aurait dû avoir lieu. Une connaissance et une piété réelle ne remédient pas aux relations directes de l'âme avec le Seigneur. Le chrétien doit les rechercher avant tout. Des milliers d'âmes pieuses restent à l'état d'enfance, dépendant de leurs parents d'abord, plus tard de leur conducteur spirituel, au lieu de dépendre de Dieu et de la parole. Que le conducteur disparaisse, leur piété disparaît avec lui. Qu'il se détourne, leur âme se détourne après lui. Quelque aimable que soient certains traits de cette piété, puissions-nous en être gardés, surtout dans les temps fâcheux que nous traversons. Méditons souvent cette parole de l'apôtre adressée aux petits-enfants, « Vous avez l'onction de la part du Saint et vous connaissez toutes choses. » 1 Jean 2, versets 20 et 26 à 27. Non pas que l'obéissance au conducteur doive faire défaut. Les chrétiens doivent obéir à leur conducteur et être soumis parce qu'ils veillent sur leurs âmes. L'apôtre leur recommande aussi de se souvenir des conducteurs qui leur ont annoncé les paroles de Dieu, mais cela n'implique nullement qu'il leur faille être soumis à tous sans discernement, et encore bien moins qu'ils ne doivent pas, pour être gardés, chercher la communion directe et immédiate du Seigneur. Joas, lui, obéissait au conducteur indistinctement, qu'ils fussent Jéhoïada ou les princes, et ce fut sa ruine. Les conducteurs peuvent changer et faillir. Christ seul ne change pas. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le grand berger des brebis. C'est à lui que nous devons nous attacher. Telle est une des sérieuses instructions que nous offre le caractère et la carrière de Joas. Dès le début de son règne, une chose en apparence secondaire annonçait déjà le déclin. Seulement les hauts lieux ne furent pas ôtés, le peuple sacrifiait encore, et faisait fumer de l'encens sur les hauts lieux. Verset 3. Dès le règne de Salomon, la présence des hauts lieux était tolérée, non qu'elle fût au début, avant l'érection du temple, une idolâtrie manifeste. Salomon sacrifiait à Dieu sur le principal haut lieu de Gabaon. 1 Roi 3, versets 2 à 4. Mais déjà le peuple, encouragé par l'exemple du roi, y voyait autre chose, et ses pensées superstitieuses ou idolâtres montaient avec l'encens qu'on y faisait fumer. Par les hauts lieux, Roboam, fils de Salomon, laisse une idolâtrie éhontée s'emparer de son royaume. Dès lors, aucun des rois fidèles de Juda n'avait eu le courage de les abolir. Asa, dont le cœur fut parfait avec l'Éternel tous ses jours, ne les ôte pas. 1 Roi 15, verset 14. Josaphat, qui marcha dans toute la voie d'Asa, son père, il ne s'en détourna pas, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, les laissa subsister. 1 Roi 22, versets 43 et 44. Il n'est pas parlé des hauts lieux à propos d'Abijam, fils de Roboam, de Joram de Juda et d'Akasia, parce que ces rois impies suivirent la voie des rois d'Israël et commirent de bien pires idolâtries que celles-là. Le même fait, mentionné au sujet de Joas, se renouvelle dans notre livre pour Amatsia, son fils, quoiqu'il fît ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Chapitre 14, versets 3 et 4. Pour Azaria, ou Ozias, fils d'Amatsia, chapitre 15, versets 3 et 4, pour Jotham, fils d'Ozias, chapitre 15, versets 34 et 35, tandis qu'Akaz, fils de Jotham, qui suivit la voie des rois d'Israël, se servit des hauts lieux pour son abominable idolâtrie, chapitre 16, versets 3 et 4. Avec Ézéchias et la première restauration véritable de Juda, les hauts lieux disparaissent enfin, chapitre 18, verset 4. L'impie Manassé, son fils, les rebâtit, chapitre 21, verset 3. Amon, fils de Manassé, suit la voie de son père. Enfin, Josias, lors de la seconde restauration, ne se contente pas de les ôter comme le pieux Ézéchias, mais les détruit de fond en comble, les souille et remplit d'ossements les lieux où ils étaient. Chapitre 23, versets 8, 13 et 14. Cette destruction fut si complète qu'aucun des mauvais rois qui suivirent n'eut la possibilité de les réédifier. De fait, un seul roi en Juda, Josias, et cela vers la fin de l'histoire du peuple, a extirpé définitivement ce mal et ce danger permanent pour le peuple de Dieu. Ces temps de la fin, ces temps de ruines correspondant aux nôtres, nous donnent de tels exemples. Si, comme au jour de Josias, le témoignage actuel de Dieu a beaucoup moins d'importance et d'étendue aux yeux des hommes, s'ils le considèrent même, selon leur expression, comme une quantité négligeable, il n'en est pas de même aux yeux de Dieu. Le témoignage d'un Ézéchias ou d'un Josias est enregistré dans son livre de mémoire, et quand même ce témoignage ne met qu'une digue momentanée au cours du déclin et un retard à l'exécution du jugement, il fait ressortir le caractère de Dieu dans ce monde et sert de moyen de salut ou d'édification à bien des âmes. Le premier souci de Joas fut le temple de l'Éternel, le lieu de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Quand il y a un réveil de piété, cet objet négligé acquiert une valeur toute nouvelle. Les enfants de Dieu éprouvent le besoin de se grouper là où il a plu au Seigneur de faire habiter son nom et de mettre en honneur par leur activité, leur dévouement et toute leur conduite, sa présence au milieu des siens. Et Joas dit au sacrificateur, « Tout l'argent des choses saintes qui est apporté dans la maison de l'Éternel, l'argent de tout homme qui passe par le dénombrement, l'argent des âmes selon l'estimation de chacun, tout argent qu'il monte au cœur de chacun d'apporter dans la maison de l'Éternel, que les sacrificateurs le prennent, chacun de la part des gens de sa connaissance, et qu'il répare les brèches de la maison partout où il se trouvera des brèches. » Versets 4 et 5. Comme nous l'avons dit plus haut, on voit ici chez Joas une connaissance exacte de cette loi de l'Éternel qui avait été mise sur lui à son couronnement. Bien des sommes devaient être employées, selon l'ordre du roi, à la restauration du sanctuaire. D'abord, l'argent des choses saintes qui est apporté dans la maison de l'Éternel. Il comprenait tous les cas mentionnés par Moïse de dons volontaires et d'esprit libéral pour l'édification du sanctuaire. Exode 35, verset 5 et versets 20 à 29, Nombre 7. Dans cette catégorie peut entrer l'argent du butin. Nombre 31, verset 25 à 54. L'argent du rachat et du dénombrement constituait la seconde catégorie. Exode 30, verset 11 à 16, Nombre 3, verset 44 à 51. Enfin, l'argent des âmes, selon l'estimation de chacun, consistait en tout don volontaire et qui n'était prescrit par aucune loi ni ordonnance. Cela avait eu lieu à différentes reprises, comme nous le montrent quelques-uns des passages cités. La chose importante pour Joas était de remonter aux tribus de Moïse, serviteur de Dieu, imposé à Israël dans le désert, de Chronique 24, verset 9, et de ne pas s'écarter de la parole de la loi quand il s'agissait de remettre en honneur la maison de Dieu et tout ce qui s'y rapportait. Il en est de même de nos jours. Pas plus que pour Joas, il n'est question pour nous de recommencer à bâtir la maison, de refaire une nouvelle église, mais seulement de réparer ses brèches, et, pour cela, Dieu ne nous abandonne pas à notre initiative, qui ne ferait qu'ajouter aux mots anciens des brèches nouvelles. Nous aussi, nous avons, dans la parole de Dieu, notre tribu de Moïse, l'indication de ce que Dieu attend de nous, et si nos cœurs sont de bonne volonté, ils ne chercheront qu'une chose, les intérêts de Christ et de la maison de Dieu ici-bas. Si Joas est à ce moment-là rempli de zèle, il ne le rencontre pas au même degré dans la sacrificature, et même chez le pieux Jéhoïada qui en est le chef. Les sacrificateurs emploient à leur usage les dons qu'ils tirent des gens de leur connaissance, versets 7 et 8. Non pas qu'ils n'eussent droit à vivre de l'autel, mais leurs intérêts primaient dans leur cœur ceux de l'Éternel et de sa maison, et leur conduite le démontrait. Ils vivaient des dons, et la maison de Dieu gardait ses brèches. Jéhoïada lui-même les laissait faire sans protester. On voit plus bas, au verset 15, que des personnes sans caractère officiel, depuis ceux qui étaient préposés aux travaux jusqu'aux charpentiers et aux maçons, agissaient fidèlement, bien plus que les sacrificateurs eux-mêmes. Exhortons-nous, d'après l'exemple de ces hommes, à montrer le même cœur à l'ouvrage et toute bonne fidélité dans le service qui nous est confié, afin d'orner en toute chose l'enseignement qui est de notre Dieu Sauveur. D'autre part, ceux qui avaient l'argent en main pour le distribuer aux ouvriers ne montraient à leur égard aucune défiance, car ils reconnaissaient le désintéressement mis au jour par toute leur conduite. Ainsi régnait une heureuse communion entre tous, et rien ne venait entraver la marche régulière du travail. Un tel résultat se produit toujours quand les intérêts de la maison de Dieu, au lieu d'être relégués au second plan, sont considérés comme la chose capitale. Malgré cela, les besoins des sacrificateurs n'étaient point oubliés. Certaines sommes, l'argent pour le délit et celui des sacrifices pour le péché, n'étaient point versées dans le coffre placé à l'entrée de la maison de l'Éternel et restaient affectées à la sacrificature. Verset 16. Il était ainsi pourvu à tout avec ordre et mesure. Entre les versets 16 et 17, s'intercale le récit de 2 Chroniques 24, versets 17 à 22, c'est-à-dire la chute de Joas, allant jusqu'au meurtre du prophète Zacharie, fils de Jéhoïada. Il sera temps de méditer cette triste année finale d'un si beau règne, quand nous en viendrons au livre des Chroniques. Mais elle suffit pour anéantir les fruits du témoignage de Joas. Hazaël, roi de Syrie, verge de Dieu, monte contre Jérusalem, après s'être emparé de Gath, situé au pied des montagnes de Juda, et qui formait la clé du pays du côté des Philistins. Joas, pour payer sa rançon à Hazaël, lui envoie toutes les choses saintes de la maison de Dieu. Qu'était devenu son beau zèle pour tout ce qui appartenait à l'Éternel? D'après 2 Chroniques 24, versets 23 à 27, cela n'empêche pas même Hazaël de faire acte de présence à Jérusalem avec un petit nombre d'hommes, à la honte et à l'opprobre de la grande armée de Joas, sans force, parce qu'il avait abandonné l'Éternel, le Dieu de ses pères. Tous les chefs du peuple, qui avaient incité le roi au mal et conspiré contre Zacharie, sont mis à mort. Et ainsi s'accomplit la parole prononcée par le prophète mourant, « Que l'Éternel regarde et redemande ». Joas lui-même, laissé par l'ennemi, dans de grandes maladies, est tué par ses serviteurs, un Ammonite et un Moabite, qui conspirent contre lui, instrument inconscient de la justice divine qui vengeait aussi sur le roi le sang du fils de Jéhoïada, selon la parole du prophète.